Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Les grandes gueules du sport, la dernière ligne droite, ce samedi matin. Vous pouvez nous écouter en podcast. Vous le savez, les deux premières heures sont déjà disponibles. On est avec Marc Madiot, David Douillet, Christophe Cessieux et Sarah Pitkowski. On est en direct de Melbourne aussi pour la finale féminine de l'Open d'Australie. Eric Salio entre Zabalenka et Rybakina.
Superbe finale, hein, je me répète, mais vraiment ça joue très très bien. Rybakina a pris le premier set 6 jeux à 4, mais Aryna Zabalenka a la chance de faire la course en tête dans cette deuxième manche. Elle mène 5-4, mais elle n'est toujours pas parvenue à breaker son adversaire, qui va donc servir pour tenter d'égaliser à 5 jeux partout. Si elle n'y parvient pas, eh ben, on aura une troisième manche et on s'en félicitera.
Ah oui, bah après, en même temps, après les 10 heures d'hier de tennis.
Une heure et demie de tennis, c'est pas suffisant.
Attention à les mauvaises habitudes quand même. Hein. va pas à la cantine sur une balle de match, s'il te plaît, comme la semaine dernière. On a un œil évidemment sur le Super G féminin également à Cran Montana qui est parti il y a quelques minutes. Sans Lindsey Vonn, on rappelle, inquiétude pour l'américaine qui s'est blessée hier mais qui ne dit pas adieu à son rêve olympique. Dans un instant, sur le buzzer, l'OM peut-il vite digérer l'humiliation de la Ligue des Champions à 17h, déplacement au Paris FC en Ligue 1. Et puis en fin d'émission, participez au Jojo du Sport avec vos GG aujourd'hui. Remportez le maillot signé et dédicacé de Giannis Antetokounmpo au Bucks de Milwaukee grâce à notre partenaire AuthenticSignature.com pour gagner votre maillot de Giannis. Appelez le 3216 touche 4 ou envoyez jeu au 7-32-16. Jeu au 7-32-16. Tiens, alerte info. J'ai vu passer une interview de Rafael Nadal il y a quelques instants en Australie.
Oui, Eric. Qui est à Melbourne. Ouais.
Qui vient de. On lui a posé la question, t'es pour qui, Djoko ou Alcaraz? Il a dit, réponse un peu politique d'abord. Hein. Il a dit, ah bon, je suis espagnol quand même. Donc, ça sera pour Carlos Alcaraz. Donc, voilà. Eric, tu as ton objectif, c'est de mettre Rafael Nadal à l'antenne avant midi. Allez, tout de suite, on ouvre la porte du vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
De toute façon, tu dois savoir où il est parce qu'il y a des caméras partout à l'Open d'Australie. Justement, les GG cette semaine. Ce qui nous a marqué, ce sont les déclarations autour de ces caméras. À l'Open de Melbourne, trop présente selon certains joueurs et joueuses. La première à s'en être plein, c'est l'américaine Coco Gauff, qui a cherché un endroit tranquille pour casser sa raquette après son élimination. Raté, la séquence en fait a été filmée, diffusée, a fait le buzz. Sommes-nous des joueurs de tennis ou sommes-nous plutôt comme des animaux dans un zoo? C'est un dîner. Iga Swiatek, la numéro 2 mondiale, qui se demande si un jour elles seront suivies jusqu'aux toilettes. Novak Djokovic s'est dit surpris qu'il n'y ait pas encore de caméra sous la douche. Le Serbe est réaliste en fait, et il a dit ça. On vit dans une société où le contenu est roi, donc si c'est un débat plus profond, j'ai du mal à imaginer que la tendance s'inverse et qu'on supprime les caméras. Si on regarde la situation actuelle, il y en aura toujours plus. Déjà, j'aimerais qu'on parle de ça ce matin à travers vos expériences, qu'on parle du poids des caméras, à quel point c'est pesant, à quel point on fait avec, on apprend à faire avec ce qu'on accepte et ce que l'on refuse. Marc, j'aimerais qu'on commence par toi parce non mais j'ai tout de suite eu les images par exemple des caméras de France Télévisions qui la série Netflix qui était au cœur des Tours de France que vous avez fait avec Thibaut Pinot notamment dernièrement. Le poids des caméras déjà, comment toi tu appréhendes ça? Tu joues avec ça? Tu fais attention?
Oui, on fait attention. Après le truc pour moi, enfin il me semble assez simple, c'est d'avoir en permanence conscience de la présence du micro ou de la caméra. Le grand danger quand on est dans ce type de reportage, c'est d'oublier le micro et la caméra. Et plus le temps passe, plus on a tendance à oublier facilement. Et c'est là que ça peut être dangereux ou difficile. Après, le fait qu'il y ait une caméra ou un micro, si on juge utile, qu'on en a besoin pour faire passer un message ou une image, faut pas hésiter à s'en servir.
Quand ces images qui ont fait le tour du monde, on te voit devant un écran de télévision, il y a Thibaut qui est en train de réaliser un truc. Tu es grand.
Non mais ça, j'avais rien là.
Là tu sais pas.
Ah non, j'avais
pas
rien. Mais j'étais pas dans le cadre Netflix ou autre.
Non, mais dans le cadre du Tour de France. Donc
oui, mais j'avais pas fait. Ça s'est fait par hasard en fait la situation. La situation s'est créée par hasard. Donc non, là sur ce coup-là,
tu joues pas la comédie.
Non,
c'est le vrai Madio qu'on a là.
Oui, j'étais tout seul. En fait, sur cette séquence-là avec Thibaut, j'avais la même attitude devant un poste de télévision au bord de la route sur le Tour de France que si j'avais été dans mon canapé à la maison.
Ouais.
Voilà.
Rapidement, avant de poursuivre le vestiaire, Eric Salio, un set partout en finale de l'Open d'Australie entre Sabalenka et Rybakina, c'est ça?
Ouais, absolument. Un set partout parce que Sabalenka vient de prendre le service de Rybakina blanc, donc à 0-40. On sentait venir que Rina augmentait la pression et la Kazakhstanaise donc a craqué. Les deux filles sont parties au vestiaire, donc ça va reprendre dans 2-3 minutes.
Il n'y avait pas de caméra là pour la suivre, Sabalenka.
Non, mais il y a quelqu'un. Ligne. Oui, il y a toujours quelqu'un qui t'accompagne. Oui.
C'est vrai, pour voir.
Non, mais parce que t'as pas le droit normalement de rencontrer tes équipes. Donc t'as toujours quelqu'un à côté de toi qui fait que tu vas juste aux toilettes ou te changer, puisque autant les hommes peuvent se changer sur les cours, les femmes non.
Tu crois pas un pote qui dit tiens, je te donne une super raquette.
Oui.
Un super Sonic, celle-là, juste en finale. On est dans le vestiaire sur le poids des caméras. David, alors, double champion olympique, toi, t'as dû gérer les caméras, je pense, dans ta carrière, d'une manière forcément à faire des choix. Ça a été un poids pour toi, ça, dans ta carrière ?
Oui, c'est un poids, c'est une pression, mais si tu veux, il y a caméra et caméra. Il y a caméra journalistique de professionnels, puis t'as la caméra des braconneurs, tu vois, ceux qui ont un portable, et qui te chopent dans ta vie classique, privée, ou un moment où il y a justement, tu penses être complètement isolé et libre.
Mais ça, c'est aujourd'hui. C'était pas le cas pendant ta carrière.
Ça, c'est aujourd'hui. Ça, je l'avais pas, ça. Donc, c'est une dimension qui est compliquée à gérer parce que autant à l'époque, moi, je me souviens. Enfin, il y avait une éthique journalistique, vraiment. Et je crois qu'aujourd'hui, on l'a. Et c'est à vous de répondre, messieurs les journalistes, mais on la perd de plus en plus. C'est-à-dire que dans ce voyeurisme ambiant et dans cette course aux images...
C'est à la course à l'image, c'est bon contenu.
C'est la course à l'image,
c'est tellement,
tout ça. Voilà, il y a eu des déperditions. Moi, je me souviens, avec tous mes potes journalistes... lapsus révélateur, mes potes journalistes... Ouais. Voilà, on se suivait toute notre carrière de journaliste et carrière d'athlète.
Donc t'étais dans une relation de confiance sur ce que tu donnais comme accès.
T'étais dans une relation de confiance parce que le off avait vraiment une valeur. Quand tu disais bah là tu poses ta caméra, tu l'éteins, le gars le faisait, le respectait. Enfin tu vois, c'était un partenariat qui se mettait en place.
Quel censeur. Ouais.
Non mais aujourd'hui.
Bah oui, aujourd'hui, mais aujourd'hui
non,
les c'est pas sites
web, je rigole, c'est pas le cas. Non mais toi par exemple, tu laissais les caméras rentrer dans ton intimité avant un combat.
Ça m'est arrivé, mais c'est moi qui le choisissais. Mmh. Et c'était ma décision, c'était pas la décision du journaliste. C'est à toi d'ouvrir et de gérer le flux. Mais aujourd'hui, le flux, tu le gères plus. Tu le gères plus de cette manière-là. Parce que certains de vos confrères sont sans foi ni loi. Ils sont capables de tout pour obtenir ce dont ils ont besoin.
Mais parce qu'aujourd'hui,
ils ont aussi de leur supérieur.
Pour défendre la corporation, s'il faut le faire, mais je sais pas s'il y a moins d'éthique ou plus d'éthique avant ou aujourd'hui, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a plus de contenu à créer, en fait.
Oui, mais ce contenu, il n'est pas uniquement fait par des journalistes.
Exactement.
Donc en fait, c'est des gens qui se retrouvent dans le monde médiatique à diffuser des informations médiatiques, mais qui n'ont aucune formation journalistique.
Donc, et en qui fait, n'ont donc aucune déontologie.
Mais bien sûr, puisque
ce n'est pas des professionnels.
Mais parce qu'ils n'ont pas le même cursus qu'un journaliste. Et puis, il y a aussi l'évolution, exponentielle que le sportif lui-même a sa propre audience.
Oui. Alors, mais
à l'époque, on ne l'avait pas. C'est-à-dire que si on voulait être exposé, il fallait discuter avec un journaliste.
Mais pour recadrer peut-être le sujet, parce que là, à l'Open Australia, ce qui dérange, c'est que ce sont des caméras cachées presque,
elles sont pas cachées.
De surveillance en tout cas.
Elles sont pas cachées, elles sont visibles.
Qui ont vu les images de Coco Gauff.
Ce qu'il faut comprendre.
Mais on n'a pas un caméraman derrière la caméra.
Exactement. Exactement. La première fois on rentre dans les vestiaires, on s'en souvient, c'est les yeux dans les bleus 98. C'est la première fois où le spectateur, téléspectateur, on revit.
Rentre dans les coulisses.
On revit quelque chose. J'ai envie de dire que la bascule, elle s'est faite à ce moment-là, mais c'était donc quelqu'un qui vivait au sein de l'équipe, qui prend des images, qui sélectionne ce qui peut être montrable ou pas. Là, on est arrivé à un point où en fait c'est Big Brother. C'est comme quand on rentre dans le loft. C'est-à-dire qu'à l'Open d'Australie, dans l'enceinte, les joueurs sont dans un loft. C'est-à-dire que vous avez des caméras et vous avez des personnes, des êtres humains qui sont dans une énorme salle avec je ne sais pas combien d'écrans qui filme tout, puis qui à un moment dit ah bah tiens ça c'est sympa, je vais prendre cette image là et je vais l'envoyer à la personne qui
c'est
fait
une dérive là digitaux. C'est une dérive pour toi.
Mais on est arrivé dans une dérive.
Attention.
Elle envoie ça au service communication et pourquoi derrière ça? Parce qu'en fait il y a un service marketing qui a vendu des images. Si vous regardez bien ces images, elles sont sponsorisées par une marque. Donc en fait on est en train de monétiser toutes ces images-là. Donc en fait, au-delà de ça, quand on dit que c'est pour les spectateurs et les téléspectateurs, on demande plus, je ne suis pas sûre. Je pense que c'est avant tout le marketing qui utilise ces images-là pour c'est monétiser ça.
L'augmentation des prize money à l'Open d'Australie.
Alors, je vais t'arrêter
les joueurs et les joueuses n'ont jamais été aussi bien payés.
Je vais te dire, il y a plus d'argent. Mais c'est pas normal que ça soit ce plus d'argent qui fournisse plus d'argent aux joueurs. Parce que la répartition du pourcentage du prize money des joueurs, déjà depuis toujours, elle est autour de 20%. Donc c'est pas normal. Déjà, même avant ça, le prize money des joueurs n'est pas en corrélation avec les recettes que génèrent les tournois du Grand Chelem. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un lock-out des joueurs de tennis qui disent, mais attendez, Grève. C'est nous qui remplissons les stades, c'est nous qui vendons des droits télé, c'est nous qui faisons à venir des sponsors. Et pourtant, on touche que 20% des recettes d'un tournoi du Grand Chelem.
Demande aux cyclistes qu'ils en parlent.
Toucher 20%.
C'est que la relation de on monétise tout, donc vous avez plus de prize money.
Nous, on n'en est pas à toucher 20%, on en est à payer un droit d'engagement pour faire le championnat de France. Hein, on est très loin.
Je suis désolée pour le cyclisme, mais le tennis génère.
On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport. Sur le poids des caméras, tiens, sur WhatsApp, j'ai Martial qui me dit, je sais que c'est devenu soi-disant inévitable pour intéresser le public, mais j'ai horreur de ce nouveau monde où il faut tout voir et tout savoir absolument sur les sportifs. Non mais est-ce que le public est forcément demandeur de ces images
Je pense que les sports, les uns et les autres se mettent tout simplement et tout seul en difficulté parce que en fait on veut occuper des parts de marché. Le vélo veut occuper des parts de marché, le tennis va en occuper d'autres et le foot en occupe d'autres. Donc ce qui fait qu'en fait il y a une recherche permanente,
c'est l'escalade
d'audience, c'est une escalade et il y a une consommation parce que l'image d'aujourd'hui, demain on s'en fout et celle d'après-demain on l'attend avec impatience et dès qu'elle est arrivée on va sur autre chose. Donc il y a une consommation, une surconsommation d'images qui en fait est zappé très rapidement, mais en fait on a occupé le terrain, donc on croit avoir fait un truc extraordinaire.
Oui, et puis le sponsor, lui, il veut un ROI. Le sponsor qui met de l'argent, il veut un ROI. Mais il veut pas juste un ROI de son image sur l'écran. Un retour sur investissement, en fait.
Ah, excuse-nous, on rentre pas comme nous. Ouais.
Mais toi, tu benchmarks comme ça.
Et c'est ce qui explique que quand un sponsor dit, moi je vais investir dans le vélo, je vais investir dans le tennis, tu lui fais un programme marketing. Ben voilà. Mais en plus de ça, tu rajoutes le digital aujourd'hui. Alors, je voudrais tant d'images où on va voir ma marque, où je voudrais sponsoriser tel type de contenu. Et donc, en fait, finalement, le sportif n'est plus maître de son image.
Alors, revanche, là, tu évoquais tout à l'heure le documentaire Les yeux dans les bleus, qui avait suivi donc l'équipe de France de Jacquet en 98. Derrière, TF1 avait fait la même chose sur l'équipe de France de rugby en 99, qui va en finale de la Coupe du Monde de rugby. Et c'est un copain à moi qui a fait ce montage, qui a fait ce film. Et malheureusement, ils n'ont pas été champions du monde, donc ça n'avait pas été le succès. Mais depuis, de tous les 4 ans, il a suivi l'équipe de France. Et il te dit qu'il y a un véritable changement. Avant, tu avais une liberté totale. D'ailleurs, le journaliste pouvait aller dans la chambre des joueurs, discuter avec eux, parler de choses et d'autres, même de sujets un peu sensibles. Aujourd'hui, la com organisée justement par la Fédération française et par l'équipe fait que le mec est obligé de demander des autorisations pour tourner n'importe quoi.
Bien sûr.
En fait. T'as plus du tout la même liberté.
Mais il y a de plus en plus de demandes aussi avec
l'été dernier sur la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que tu avais une liberté totale de filmer, de voir les à côté,
évidemment, il y a des choses qui sont réglées avant. On donne plus ou moins d'accès ou pas. Je pense à la même chose avec Marc. Tu donnes des limites aux diffuseurs qui veulent voir. Mais d'abord, David, tu voulais rajouter un truc sur le poids des caméras.
Il y a le poids des caméras que les athlètes génèrent eux-mêmes. Aujourd'hui, ils ont tous des chaînes YouTube ou leurs propres réseaux sociaux dans lesquels ils se mettent en scène. Et quelquefois, ils se mettent en scène dans des bah, dans des choses qui sont totalement extra-sportives. Et voilà, ça ouvre la porte à ce que on puisse dire pour les autres preneurs d'images. Bah, en fait, il a ouvert la porte. On voit tout ce qui se passe chez lui dans sa vie privée, etc., etc. Donc, bah voilà, c'est fait. Donc, on peut y aller, quoi, tu vois. Donc, cette porte ouverte, à la fois maîtrisée par les athlètes, mais qui l'ouvre, grande ouverte pour certains. Eh ben, faut pas qu'ils s'en plaignent derrière, lorsqu'ils sont pris à leur insu. Parce qu'on peut tout voir maintenant, et c'est ça qui est inscrit dans la société. C'est-à-dire que maintenant, il y a plus de secret. On peut tout espionner, tout diffuser.
Oui, mais c'est pas la même chose quand c'est une caméra qui te prend, qui prend des images, alors que quand c'est un être humain avec la caméra, ce que je veux dire, c'est que si, dans le cas de Coco Gauff, pour reprendre l'exemple, si ça avait été, comme il peut y avoir des community managers ou des GRI, donc des caméramans qui suivent et qui vont capter des images, je suis certaine que l'être humain, quand il voit Coco Gauff qui est dans un état de nerf, qui cherche un endroit juste pour aller briser sa raquette, cette image, il l'aurait pas prise.
Il y aurait juste
un tout petit peu de décence.
Les gens qui prennent la décision de diffuser ou pas cette image, ils ont plus de...
Ils ont plus de filtre. Il n'y a plus de filtre.
Ils se disent, on peut faire puisqu'ils le font.
C'est un contenu qui va faire beaucoup de vues, donc il faut l'utiliser. Mais juste, on n'en a pas parlé, alors que finalement, c'est peut-être le sujet central. C'est la santé mentale, en fait, des athlètes dont on parle beaucoup depuis quelques années maintenant. Au final, c'est ce que dénonce Coco Gauff et aussi Gaziantep. En fait, on a plus un endroit pour exprimer notre frustration, notre colère comme ça. Donc, c'est important de protéger ça, Marc. Je sais pas, toi, par exemple, quelle limite pour protéger la santé mentale de tes coureurs, t'as pu donner quand il y avait des caméras, de Netflix.
Quand il y avait Netflix, il y avait un plan de préétabli pour la journée, donc on savait à quel moment ils allaient faire telles images et telles interviews par rapport à la situation.
Quand Thibaut abandonne, tu dis pas, tu dois peut-être avec dire France à France Télévisions, attendez un peu peut-être. Il y a quand même une conscientisation, il faut préserver un peu l'athlète.
Moi, je garde un très bon souvenir du tournage avec les gars de France Télé sur cette édition du Tour de France avec Thibaut Pinot. Ça s'est passé en respect et en intelligence et en confiance.
C'est ça la clé de tout, en fait.
L'image choc, enfin la scène choc, c'est quand tu essayes de consoler Thibaut le soir après ça,
dans la chambre,
après son abandon. L'image est très forte et les phrases que tu lui dis, ça a vraiment dressé les poils sur les bras de tout le monde ce jour-là. Mais ça aussi, c'était un accord avec toi.
On était en fin de Tour de France et on était dans une relation avec Brice Bobby. On était dans une relation de confiance. Parce qu'il n'avait pas trahi notre confiance dans les jours précédents et dans les instants précédents. Donc en fait, on était dans quelque chose d'humain et de naturel. Quand je me suis retrouvé dans la chambre avec Thibaut et que Brice était là, ni Thibaut ni moi, on savait qu'il était là, mais ça ne nous gênait pas.
Parce que le mec a su se faire oublier.
Parce qu'il avait su s'intégrer à la vie de l'équipe. En fait, tout se passe là. Après, avec Netflix, moi j'ai eu des bons moments aussi. Ça s'est globalement très bien passé avec Netflix. Le problème avec Netflix, c'est qu'ils sont peut-être dans certains moments, non pas dans l'intimité. Ils étaient pas trop sur là-dessus. Ils étaient plus dans les relations extérieures qu'on pouvait avoir avec les concurrents.
Ils essayaient de monter l'histoire
de la bière avec Jumbo Visma, des trucs comme ça. Mais là, j'ai envie de dire, in fine, ces histoires-là, c'est pas ce qu'on retient et c'est pas très grave.
C'est pas ce qu'on retient, tu crois ?
Non. Mais j'ai surjoué aussi la situation j'ai dit, je vais retourner le truc dans mon sens, mais. Ça fait partie de la petite histoire. Et in fine, au bout du compte, ça n'a pas une gravité extrême. Voilà. Par contre,
c'est quelque chose dont on se souvient plus tard. Ça n'a pas une gravité extrême, tu as raison. Tout le monde s'en souvient.
On se marre aujourd'hui.
Non, mais ce qui est important aussi de rappeler, c'est que les sportifs, vous tous, vous avez aussi besoin des caméras, d'une certaine façon.
Alors, on a besoin et on n'a pas besoin. Il y a quand même des paradoxes. Moi, je trouve que, je le dis parfois à certains de mes coureurs, je dis, mais arrêtez de balancer votre vie sur les réseaux sociaux, sur Strava et autres. Arrêtez! Vous donnez de l'information à la... Moi, je suis plus sur le côté sportif.
Concurrence.
Vous donnez de l'information à la concurrence. À la concurrence, oui. Arrêtez.
Oui, mais d'un autre côté, quand Netflix a fait deux saisons de suite sur les équipes engagées sur le Tour de France, ça a donné une surface médiatique bien supérieure au vélo.
Oui,
ça a été une formidable publicité.
Pourquoi Netflix n'a pas continué ?
Parce que c'était pas assez rentable pour eux.
Parce que aussi, je pense qu'on n'était pas un sport vraiment adapté à Netflix.
Y a pas,
en fait,
y a
le
pas
Tour de France, de fight. Le Tour de France, on est dans.
Exactement, ils n'ont pas trouvé de quoi en faire un soap, une série ou qui va être.
Dans le Tour de France, toutes les équipes, petite, grande ou moyenne, on est tous dans un timing. On essaie de faire en sorte que la vie de l'équipe dans la journée se passe sans anicroche. Mmh. Et en fait, les seules perturbations qu'il peut y avoir, c'est une victoire potentielle. Alors là, on est dans une forme d'euphorie, donc j'ai envie de dire c'est assez facile à dérouler. Mais le reste du temps, on est dans la maîtrise du temps et dans la maîtrise des situations. Donc en fait, pour une caméra de Netflix, on est l'envers de ce qu'ils recherchent.
Oui.
Parce qu'en fait, ils veulent de la sensation. Ils veulent monter en épingle quelque chose. Ils veulent de la sensation. Ils veulent de l'inattendu. Mmh. Alors que nous, en fait, la vie quotidienne d'une équipe, c'est de faire quelque chose qui soit linéaire.
Et
si ça peut être linéaire pendant trois semaines, c'est encore mieux. Donc, on n'est pas.
Le tennis n'a pas pris parce que les joueurs n'ont pas voulu livrer des choses et ils n'ont pas voulu se monter les uns contre les autres.
Il n'y a qu'un seul sport qui continue et pour qui ça marche bien, c'est la Formule 1.
Ouais. Mais c'est plus facile.
Ah, mais la Formule 1. C'est un monde bling-bling qui va autour du monde où il y a toujours des choses à raconter aussi avec beaucoup d'argent. Tiens, j'ai Moussa qui me dit sur WhatsApp, comme le tournoi de l'Open d'Australie était ennuyeux, les organisateurs ont trouvé un moyen de la dynamiser avec ces caméras. Non, mais c'est vrai aussi. Quand le tournoi, il y a un peu moins de choses à dire dessus, c'est là où tu vas picorer un peu ce que tu trouves dans les caméras de surveillance.
Ça a fait la une des médias sportifs.
On en parle. Allez, on ferme la porte du vestiaire. Attention, vous êtes filmé ici dans le studio. Je vous préviens. Même toi, David. On voit tout ce que tu fais. On entend tout.
De couper la tête du poulet de Brest.
J'espère que tu as répondu au téléphone.
Je suis torse nu, là.
N'importe quoi. Allez, dans un instant, on revient avec Christophe Cessieux, Marc Madio, Sarah Pitkowski et David Douillet, torse nu. Et Eric Salio en Bermuda, certainement, pour commenter Zabalenka, Rybakina. On y revient dans un instant, l'Open d'Australie. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Les grandes gueules du sport, dans un instant, les jeux-jeux, on va voir qui connaît le mieux le sport. Christophe Cessieux tient les comptes. Qui est leader ? Qui est le plus performant aux jeux-jeux du sport ?
Alors, ça dépend parce qu'il y a plusieurs façons de compter.
S'il vous plaît, simplement, monsieur Cessieux.
Alors, sur les
Vas-y,
qui est le meilleur ? Les tournois à deux, c'est Marion Bartoli qui est invaincu.
Bravo, Marion.
Et sur les tournois individuels, c'est-à-dire les réponses données par les uns et les autres, c'est Julien Benedetto qui est en tête.
C'est pour ça que Marion a une émission. Voilà, tout simplement. Posez-vous les bonnes questions.
Sarah est très loin, pourtant elle a eu une émission, mais loin au classement.
La finale de l'Olympique.
Moi j'avais bien débuté et depuis je sombre.
C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, Marc. Aujourd'hui. Je sens
plus. Bon, Marc, si on est ensemble, il faut aller la chercher. Hein. J'ai besoin d'une victoire, Marc.
Elles sont allées chercher le troisième set. On a du suspense dans le tableau féminin. En finale, enfin, entre Zabalenka et Rybakina. Eric, salut à l'Open d'Australie.
Ah ben du suspense oui, mais sauf que Zabalenka a pris large là dans la troisième manche puisqu'elle s'est détachée 3-0. Vraiment elle a passé la cinquième et Rybakina elle n'arrive pas à suivre la cadence, donc c'est vraiment du grand art pour Zabalenka qui se dirige donc vers un nouveau titre ici à Melbourne. Et si Sarah veut gagner, il faut que je joue à votre jeu parce que je pense que j'ai largement les compétences.
Tu sais que t'es bien classé, t'as joué qu'une fois, t'as gagné, donc t'es super bien classé, Eric.
Christophe a un fichier Excel avec
il est deuxième derrière Marion Bartoli.
Christophe a un fichier Excel avec les résultats, c'est catastrophique. Allez, d'abord les amis, comment le navire OM va-t-il se remettre du naufrage en Ligue des Champions ?
RMC, les GG sur le buzzer.
L'ouverture du score pour cette équipe qui mène un but à zéro au bout de 4 minutes.
Aujourd'hui, je suis très heureux d'être l'entraîneur de la Marseille. Parce que j'adore les polémiques.
Quand tu le vois en conférence de presse, qui dit tout et n'importe quoi, qui dit tout et son contraire, si on avait été dans le vestiaire, je sais comment ça se serait passé. On se serait regardé, on aurait rigolé, on aurait dit mais c'est quoi ce guignol ?
2-0 pour le club Luge ! Incroyable cette reprise de Roemo Vermont ! Les Marseillais mystifiés, ridiculisés !
Quand t'es en train de jouer une finale comme ça, importante pour l'histoire du club, pour la continuité, et que t'as des joueurs qui sont même pas rendus compte de l'événement, qui sont en train de marcher, moi ça c'est des choses que je peux pas accepter.
Le troisième but ! Du club Bruges, l'OM se complique complique encore plus la situation. Et il y a des Marseillais qui sont au sol, qui sont agenouillés, qui ont la tête basse.
Des fois, je me dis, mais pourquoi je me rends malheureux pour des matchs comme ça, moi?
Si Benfica marque, l'OM est éliminé.
C'est parti, ça passe devant tout le monde. La tête est tombée, le but! Le but est dans ton être vide! C'est une situation incroyable, c'est le gardien Benfica qui marque!
On s'est fait balader, promener, on mérite pas.
L'OM a coulé cette semaine en Ligue des Champions. Une défaite piteuse 3-0 à Bruges et un but invraisemblable du gardien de Benfica dans les dernières minutes face au Real ont mis fin à leur aventure européenne. Le bateau tente de refaire surface, oui, mais tangue. Selon nos informations, Roberto De Zerbi, l'entraîneur phocéen, a vécu une semaine en grand danger. Et alors que Marseille se déplace au Paris FC aujourd'hui à 17h, rencontre de la 20e journée de Ligue 1 à suivre sur RMC. Les GG, je vous pose la question. Oui ou non, l'OM peut-il vite digérer l'humiliation, Christophe Cessieux?
Oui.
Marc Madiot.
Bah, il peut digérer s'il gagne.
Ah, David Douillet. Oui.
Ouais, c'est possible.
Sarah?
Moi, j'ai quelques arguments pour le non.
Ah, WhatsApp 06 12 424 424, supporter marseillais, donnez votre avis. Nico Pelletier est avec nous. Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Alors, selon nos informations, cette semaine, De Zerbi était en grand danger. Qu'est-ce qu'il en a dit? Qu'est-ce qu'on dit, nous, ce matin?
Au lendemain du fiasco de Bruges, on a assisté à une journée mouvementée du côté de l'OM, une période qui a longuement rappelé la saison passée lorsque De Zerbi, après une défaite face à Reims, s'était mis en retrait de l'entraînement pour prendre de la distance avec ses joueurs. Même scène jeudi, donc, certaines sources nuancent et affirment qu'il était malade. De Zerbi a repris les commandes de l'entraînement ce vendredi. Le technicien italien s'est ensuite présenté en conférence de presse où il a été longuement question de son avenir.
Ce n'est pas une question de savoir si j'ai pensé à quitter ou pas le club. Moi, j'ai voulu venir à Marseille. C'est ma deuxième saison ici. Et quand j'ai accepté de continuer pour une deuxième saison, je connaissais les problèmes qui pouvaient arriver. Mais quand je dis vraiment que je voulais fortement venir ici, c'est que j'y tiens. Après, il y a aussi la part des responsabilités. C'est quelque chose où moi, on m'a appris à prendre ma part de responsabilité. Ça veut dire assumer les choses, être là clairement devant vous, même si je ne pense pas avoir toute la responsabilité. Je l'avais dit avant le match. Moi, je pense que Marseille, c'est l'endroit idéal pour moi. Je ne sais pas si moi, je suis l'entraîneur idéal pour l'OM.
L'entraîneur italien était démoralisé après la débâcle de Bruges et avait des envies de départ. Les dirigeants marseillais ont laissé l'italien prendre du recul. Il avait juste besoin de savoir si De Zerbi avait encore la force, l'envie et les idées pour continuer à l'OM. C'est en quelque sorte Roberto De Zerbi qui avait la décision en main. La direction de l'OM ne l'a pas lâché. Lui qui affirme en conférence de presse hier qu'il est prêt à rester 5 ou 6 ans à l'OM. À partir du moment où De Zerbi n'a pas démissionné, la question de son maintien en poste ne se posait plus à l'Olympique de Marseille. Et même si dans cette semaine difficile, le résultat face au Paris FC ce soir reste quand même capital dans la saison de l'OM.
17h pour le match face au Paris FC. Merci Nico Pelletier de nous avoir donné les dernières informations. On a écouté Roberto De Zerbi. Je précise que tout ce qui va être dit dans ce débat n'a absolument rien à voir avec le passeport de Roberto De Zerbi. Il me semble important de le dire avant de développer nos arguments. L'OM peut-il digérer l'humiliation, Marc?
Alors, il peut le digérer. Il y a deux préalables. Le premier, Paris FC. Heureusement pour eux, c'est pas le PSG. Et le match de Coupe de France. Si l'OM bat le Paris FC et se qualifie en Coupe de France, il y a une belle éclaircie pour l'entraîneur de l'OM. Si il échoue.
Mais là, t'es en train de nous faire des oui, mais qu'avec des si.
Mais c'est la réalité du moment. Imagine, ils se font sortir par Rennes et ils sont battus par Paris, il peut faire les valises. Hein.
Ouais.
Ça me semble compliqué de tenir dans cet environnement-là.
Bah oui, il y aura plus. Si la Coupe de France sortie, plus question de titre, et championnat battu, encore moins question de titre, et voire même absence du podium du championnat.
Mais tu sais comment ça marche, un groupe sportif en plus, Marc. Le discours à un moment donné, il passe plus quand tu t'es. Quand les résultats du sport.
Moi, je suis quand même un peu surpris qu'ils prennent 2-0.
Entre-temps, t'as battu Lens, qui était leader du championnat. Le problème, c'est qu'avec Marseille, tu ne sais jamais de quoi sera fait le lendemain.
Oui, mais là, ils sont dans un carrefour. C'est le mathématique.
De la girouette.
Non, mais là, attends, ils sont dans un carrefour.
Ils sont au sommet.
Il y a un carrefour, mais mathématique.
Oui.
Il y a le match de championnat pour rester dans le rythme. Et il y a la Coupe de France pour aller chercher éventuellement un titre.
Mais
donc, il n'y a pas le choix.
Rappelle-toi de ce qu'on disait dimanche dernier. Si De Zerbi n'avait pas fait la politique de la terre brûlée ce jour-là, franchement, il y avait des choses extraordinaires à dire sur l'OM qui avait battu Lens et qui
on disait que c'était la victoire tactique de De Zerbi contre Piassage.
Tout allait bien pour lui. Et puis, je sais pas, il a mis le feu et donc, du coup, nous, on s'est embrasé également. Et puis, trois jours plus tard, à force de se mettre le feu, son équipe a plus répondu. Mais qui te dit que cet après-midi, ils vont pas en passer 5 et se qualifier en Coupe de France et puis la semaine d'après. Le problème, c'est qu'avec cette équipe, on n'a aucune certitude. Il y a trop de changements, d'abord de composition, donc tu sais pas de quoi le lendemain sera fait. Mais Marseille a été habitué de tout temps à vivre comme ça. C'est en haut de l'échelle,
des
humiliations, comme il y en a eu cette semaine, il n'y en a pas eu non plus 100 000 dans l'histoire de l'OM. Sarah, toi, tu as des arguments du nom ?
Oui,
il y en a eu,
Des arguments du nom, parce que je vais sur un terrain que je maîtrise, parce que je prends des choses qui sont factuelles, c'est que l'OM n'a pas perdu juste une qualif en Ligue des Champions.
Ils ont perdu beaucoup d'argent.
Exactement. Ouais. Ils ont perdu entre 6 et 9 millions d'euros sur le fait de ne pas s'être qualifié. S'il y avait eu un huitième de finale, parce que je vais aussi dans les 6, Marc, au Vélodrome, il y aurait eu 11 millions de plus, et qu'aujourd'hui, c'est un club comme beaucoup de clubs qui sont déficitaires et quand on dit
jusqu'où McCourt ira, parce que
exactement
tous les ans il remet au pot
avec cette défaite. Il y a aussi le couteau sous la gorge de devoir vendre ces joueurs qui sont pour l'instant pas vendus, mais il reste 5 jours au mercato pour
que toi, dans la digestion de l'humiliation, tu vois déjà les conséquences
pour digérer quelque chose, il faut changer quelque chose. Et pour repartir sur quelque chose, parce que il n'y a pas que cette défaite. Il y aurait pu avoir la défaite, mais si la qualif, même ric-rac était arrivé, j'ai envie de dire, bon an mal an, la prestation, elle est critiquable, et je vais pas aller sur le terrain de la tactique et de la technique parce que je suis pas crédible, mais elle aurait pu être digérable. Mais là, en fait, comment tu peux digérer le fait d'avoir une prestation ultra médiocre, les conséquences que ça engage derrière, et le fait de se dire mais en fait ils peuvent pas se permettre de virer De Zerbi, parce qu'en fait c'est quoi, ça va être des coûts qui vont être encore très compliqués à absorber. Donc en fait
il a un contrat jusqu'à quand, Nico?
De Zerbi jusqu'en 2027, jusqu'au 30 juin 2027 pour l'italien.
Donc tout ça faisant, je ne vois pas comment tu peux surmonter l'humiliation si tu restes en fait sur un sentiment de, en fait on sait pas comment notre coach il fait sa tactique, un match sur deux tu sais pas ce qui va se passer, et le couteau sous la gorge en disant mais en plus de ça le déficit se creuse et on n'a pas une lueur d'espoir.
David, c'est plutôt toi qui as humilié tes adversaires pendant toute ta carrière. Est-ce que dans le sport de haut niveau, c'était quoi? C'était mercredi, l'OM, on est samedi aujourd'hui, il y a eu 3 jours. Est-ce qu'on peut se remettre rapidement, mentalement, dans la tête d'un sportif de haut niveau, d'une telle déroute?
C'est là où on va voir le talent de Zerbi, parce que l'histoire c'est de réunifier et de solidifier son vestiaire, c'est tout.
C'est la confiance là, aussi des joueurs envers l'entraîneur.
Ouais, c'est ça. Donc en fait, une défaite montre déjà tous les défauts, tous les angles dans lesquels ils peuvent couler, sombrer, etc., etc. Une fois que tu as cette vision-là, tu vois les voies d'eau qui sont dans le navire, à toi de combler ces voies d'eau pour éviter de totalement sombrer.
Mais tout de suite, dès aujourd'hui.
Non. Mais dès aujourd'hui, c'est les joueurs qui ont la réponse.
Dès le soir de l'humiliation,
c'est les joueurs. Ça.
Évidemment. Et ça se passe dans le vestiaire. S'il arrive à réunifier son vestiaire, à colmater toutes les brèches, c'est pas ce qu'il a fait au sein de la défaite.
Je crois qu'il a quitté son groupe. Il a quitté son groupe le lendemain. Il a boudé. Il a pas assuré l'entraînement. Il a fallu attendre plus de 24 heures.
Vendredi pour avoir la sortie avec l'entraînement. Il joue avec le feu là.
Ça peut être une forme de management. Mm-hmm. Attention, ça peut dire.
Mais là, maintenant, c'est les joueurs aussi qui vont décider. C'est les joueurs qui vont décider.
Vous êtes incapable de prendre vos responsabilités. Maintenant, je vous lâche la bride et prenez vos responsabilités, parce que vous êtes des professionnels, vous êtes payés pour ça. Moi, je peux faire une partie du boulot, mais vous fassiez la vôtre.
Il a bien dit hier, Nico, que c'était ça. Il assumait sa part d'infidélité, mais qu'il n'est pas tout seul.
Exactement. Et même Mehdi Medatia, après le match à Bruges, le mot responsabilité, c'était le mot qui revenait le plus dans la bouche de Mehdi Benatia juste après le match en zone mixte. Mais Marc a raison sur un point. Le match face au Paris FC ce soir est déterminant dans la course.
peut-être pas au titre, mais quand même en la Ligue des Champions. Et le match de mercredi face à Rennes en Coupe de France, celui-là, il est très très important parce que le titre, il passe par là pour aller chercher un titre cette saison.
Tiens,
c'est les joueurs qui ont la clé là aujourd'hui.
Enfin, moi, dans le passé,
je pense que c'est les joueurs qui ont la clé aujourd'hui. C'est les joueurs qui ont la clé. Soit ils lâchent ou ils lâchent pas leur entraîneur.
Tiens, YK sur WhatsApp me dit De Zerbi devrait se positionner réellement sur une équipe type. À mi-saison, on ne peut plus être dans une phase d'expérimentation. Et Laurent qui me dit, je commence à me demander si les joueurs n'ont pas lâché De Zerbi notamment. Donc le match d'aujourd'hui va avoir une vraie incidence.
David, en 2020, l'OM ne gagne. C'est zéro victoire en Ligue des Champions. Zéro. Un fiasco total. Humiliation nationale, etc. Ils font deuxième au championnat parce qu'ils se sont recentrés sur le championnat. Voilà. Donc c'est possible. Alors c'est pas la même équipe, c'est pas le même entraîneur, on est d'accord, mais c'est possible. Voilà.
Je rappelle que il y aura donc une réception de Rennes en 8e de finale de Coupe de France mercredi et dimanche le déplacement au PSG à 21h05 en Ligue 1.
En championnat, attention parce que derrière Lyon revient très fort, ils sont à 2 points.
C'est ce que dit Marc, c'est pour ça que Marc a raison, le match de ce soir, il est important.
Là c'est la cata si tu te qualifies pas pour la Ligue des Champions là par contre.
Ouais, effectivement, ce sera compliqué. 17h pour PFC OM évidemment. Tiens, Jacques Ludovic au 32-16, salut Ludovic.
Salut l'équipe.
Et je vais te féliciter parce que tu es le gagnant des places pour France-Irlande ce jeudi grâce à RMC. T'es content hein, Ludovic?
Merci beaucoup.
Ah bah magnifique.
C'est super. C'est super, je suis super content.
Bon, tu sais déjà avec qui tu vas y aller ou...
Ouais, je pense que ma fille va être très très contente.
Ah bah magnifique, bah écoute, on est ravis de vous offrir ça, tu le sais, sur RMC. Et tout le tour de destination, tu peux le suivre sur notre antenne, évidemment, ouais. France-Irlande, jeudi.
Il n'y a pas de soucis, je vous écoute tout le temps. Merci beaucoup.
Merci Ludovic, merci d'avoir été avec nous et félicitations. Donc vous voyez, vous pouvez gagner, il faut envoyer, vous participer au jeu sur RMC. Rapidement, Eric Salio, la finale de l'Open d'Australie féminine, en 10 secondes.
Le temps que je passe à la cantine, Rybakina est revenu à 3 partout.
Rybakina est revenu à 3 partout. Tu vois, tu sens le tennis, toi. C'est tissant quand ça se passe comme ça. Et je précise qu'en ski alpin, c'est pour l'instant la Suissesse Mallory Blanc qui domine le Super G de Cran Montana. Roman Miradoli est 11e. On a une petite frayeur pour Laura Gaucher. On aura des informations tout à l'heure avec Léna Marjac sur RMC. Pour rester connecté. Allez, tout de suite, les jeux du sport dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, avec un œil toujours sur la finale de l'Open d'Australie féminine. On est dans le troisième set, 3-3 pour l'instant entre Zabalenka et Rybakina. C'est la Biélorusse qui est au service. On suit ça avec Eric Salio. Mais d'abord, les jeux du sport.
RMC, les jeux du sport.
Je vous rappelle le principe, c'est du 2 contre 2, vous défendez un auditeur. Répartition des équipes, Sarah Pitkowski, qui travaille toute la semaine pour préparer les jeux, est avec David Douillet. Et donc Christophe Cessieux. Waouh. Et donc Christophe Cessieux avec Marc Madio. Le duo.
Christophe, je te fais confiance.
Ah. Moi aussi, mon Marc. Moi aussi, je sais que.
Il faut que tu reprennes confiance sur les
jeux. Je suis en perte de confiance.
Ouais, ça te ressemble pas.
Depuis 2-3 fois, là, ouais, je suis pas top.
Attention quand même.
Ouais.
La question impossible, je vous rappelle, est activable par un seul joueur par émission. Ah. Il est le seul à jouer. Une bonne réponse, c'est 2 points. Une mauvaise réponse, c'est moins 1 point. J'accueille les auditeurs. Alexandre et Nicolas. Salut Alex et Nicolas.
Ouais, salut.
Bonjour.
Et on est ravis de vous avoir avec nous. Alexandre, c'est toi qui as appelé en premier. Je te laisse choisir ton équipe avec Cessieux Madio ou avec Pitkowski Douillet.
Ah bah, je suis obligé de prendre Sarah.
Obligé.
Et David.
Oh, voilà. Ok. Sarah, on est avec toi.
Non mais il est Alex, il a les stats.
Ouais. Hein. Pas de risque.
Il sait que Sarah, il a entendu que Sarah a bossé toute la semaine.
Oui, ça n'a pas l'air d'être très très efficace jusque là.
Je rappelle.
C'est moyen.
Que vous du classement. Pouvez remporter aujourd'hui un maillot signé authentifié de Giannis Antetokounmpo grâce à notre partenaire authentiquesignature.com. Allez les GG, c'est parti. Question à une seule réponse, s'il vous plaît. Qui est la record woman de victoire à l'Open d'Australie?
Serena Williams.
Non.
Éliminée.
Non, éliminée.
Je dirais Martina Hingis.
Non, éliminée. Il ne reste plus que David Douillet. 5, 4, 3, 2, 1. Vous entendez, la confiance n'est pas au rendez-vous. C'est Margaret Court.
Non, mais un truc récent.
En plus, c'est vrai qu'elle c'est la record woman avec Djokovic.
0-0.
J'y pensais, mais c'était les années.
Mais il fallait penser avant. 0-0. Quel sportif, question à une seule réponse. Quel sportif français très connu, très très connu, a présenté le gala des pièces jaunes hier?
Teddy
Riner, David Douillet.
Bien joué, David.
Et oui. Et ça, les pièces jaunes, c'est son truc, David. Hein.
Ouais.
ce rire, il peut dire plein de choses. C'est ça que j'aime bien. On peut traduire comme on veut. J'imagine avec toutes ces petites maisons de
pièces. Avec Bernadette, vous avez fait un beau duo.
Moi, je me rappelle. Je construisais mes petites maisons. 1-0 pour l'équipe Douillet-Pitkovski. Bravo, David, tu remontes tes stats. Question auditeur, c'est pour vous, Alexandre et Nicolas. Vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom. Comme ça, on sait qui répond. OK pour vous?
Ouais.
Allez, contre...
D'abord
la réponse et ensuite le prénom. Contre qui joue le 15 de France jeudi prochain au tournoi destination?
Irlande.
Qui a répondu?
Alexandre,
bien joué Alexandre, ça fait 2-0 pour l'équipe Pitkovski. C'est sûr, il faut se réveiller. L'équipe Pitkovski douillet, pardon.
Des questions tennis et pièces jaunes avec ça.
Écoutez, question à une seule réponse.
C'est pour nous, ça?
Mathieu Van Der Poel peut décrocher un nouveau titre de champion du monde en cyclocross demain. Ce serait le combienième?
Huitième,
Marc Madio.
Et un Marco.
Il est dans son rôle, Marc. Bien joué.
Ah, question tennis, question judo. Ah, quand une question vélo, on n'entend plus, là. Question à une seule réponse. 2-1 pour l'instant pour l'équipe Pitkovski-Douillet. Question à une seule réponse. Est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, l'affiche de la finale de l'Euro de hand demain?
Danemark-Allemagne.
Non,
Kylian Vérov, notre producteur.
Et je dois dire Danemark et on joue au Danemark. Donc c'est Danemark-Allemagne, c'est pas Allemagne-Danemark.
Simultané, me dit Kylian Vérov. Question annulée, on est à 2-1. Mais l'argument est incroyablement pourri. Et c'est au Danemark, j'ai dit Danemark en premier, donc ça marche.
Bah oui.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Non, justement, quand tu reçois la compétition chez toi.
Allez.
T'es pas nommé en premier.
Mais regardez comme ils essaient d'escroquer. 2-1. Question auditeur, c'est pour vous, Alexandre et Nicolas. Pareil, vous donnez la réponse et ensuite votre prénom. Quel skieur français a appris cette semaine qu'il ne participerait pas au JO?
Arturo.
Qui a répondu en premier?
Nico.
Alexandre. Non. 3-1.
Non.
si, me dit Kylian Vérov, notre producteur. Mais Christophe,
fais pas, Christophe.
Allez, 3-1. Question à élimination pour 2 points, s'il vous plaît.
Élimination.
Vous répondez à tour de rôle, erreur, et vous êtes éliminé. Donnez-moi, s'il vous plaît, les vainqueurs de l'Open d'Australie masculin depuis 1980. On commence avec David Douillet. Les vainqueurs de l'Open d'Australie masculin depuis 80.
Federer.
Roger Federer, ça passe. Marc.
Djoko.
Djoko, ça passe. Sarah.
T'as dit 2000, en quelle année?
Depuis 80.
Depuis 80, Agassi.
Agassi. Christophe, attention, l'ordinateur, il faut le fermer, Sarah.
Nadal.
Non, Nadal. Je note.
Oui, mais quand même. David.
Attends, t'as dit Nadal? Ok.
J'ai pas cité où.
David, bah oui, mais tant pis.
On a dit Djoko?
Oui, on a dit. Ouais, attention, je te laisse.
Sans bien joué.
Allez, ça passe, sans prasse. Marc.
Federer.
Déjà dit, éliminé. Oh là là, Marc, on prend un stylo. T'as un stylo là?
Ah non, moi je.
Hey. Toi, t'es là, t'es au talent, c'est ça, c'est à l'ancienne. Sarah.
Becker.
Boris Becker, bien sûr. Christophe.
Wawrinka.
Wawrinka, ça passe. David.
Agassi.
Agassi, déjà dit, éliminé.
Ah ouais, merde.
Sarah.
Pardon.
Lendl.
Ivan Lendl, ça passe. Christophe.
Sinner.
Yannick Sinner, bien sûr. Joué. Sarah.
Jim Courier.
Non, mais arrête de regarder ton ordi.
Jim Courier, non.
Non, mais. J'ai travaillé, hein.
Attends, mais quoi, t'as des noms là sur ton ordinateur?
Bah oui, j'ai.
Ah non, mais ferme de l'ordinateur. Élimination de Sarah Pitkovski. Élimination de Sarah Pitkovski. Deux points pour Christophe.
Évidemment.
Mais en plus, elle assume. En plus, elle assume, elle est incroyable. Allez hop, ça fait 3 partout. Donc, 3 partout. La pire tricheuse de l'histoire.
Pris la main dans la poche.
Non, mais sérieux, comment voulez-vous que je. Sinon, je les mets sur mon papier, c'est la même chose. J'ai écrit les choses sur mon papier. Je suis pas sur Internet.
Toi, tu viens faire le bac avec toutes tes réponses.
Non, mais je suis pas sur Internet.
Non, mais éliminé, 3 partout. Inqualifiable ce qui vient de se passer.
Et du coup, je porte réclamation.
Tout va se jouer sur une seule réponse. S'il vous plaît, les GG, puisque vous êtes à égalité. Où se disputeront les JO d'hiver en 2034?
Putain, 2034.
5. 4.
Tu veux le pays?
3.
Canada?
Attends.
Personne. Je pose donc une heure. C'était à Salt Lake City, dans l'Utah.
Mais oui.
Dernière question, du coup. Quelle est la seule athlète féminine française à avoir décroché au dernier JO d'hiver une médaille d'or en biathlon?
Euh.
5.
Justine Brezaz.
Justine Brezaz Boucher. Christophe Cessieux. Oh là là, c'est laborieux. On est sur un jeu minable aujourd'hui. Mais je te félicite, Nico, parce que c'est toi qui remporte ce jeu. Et je te félicite quand même. Bravo, Nicolas. Tu remportes donc le maillot signé authentifié de Giannis Antetokounmpo au Bucks de Milwaukee grâce à notre partenaire AuthenticSignature.com.
Les jeux du sport sur RMC avec AuthenticSignature.com, le site de référence des maillots signés et certifiés, véritable pièce de collection. Rendez-vous sur AuthenticSignature.com.
Merci les grandes gueules du sport. Merci Christophe, merci Marc, merci David, merci
Sarah. Ciao, ciao.
Vous avez été ridicule. Rapidement, Eric Salio, la finale de l'Open d'Australie entre Zabalenka et Rybakina.
Rybakina va servir dans quelques secondes pour le gain du match puisqu'elle mène 5-4. Service à suivre donc pour la Kazakhstanaise qui peut décrocher son premier Open d'Australie.
On suit avec ça avec toi évidemment dans les paris RMC. On arrive dans un instant. Restez avec nous.